Michel Aust, donc, qui publie avec toi L'arbre et le béton, de la nature des choses de la nature, dialogue, aux éditions Rhubarbe. Alors, c'est un livre dont vous pouvez voir les coordonnées sont indiquées sur notre site, le site qui prolonge cette émission qui s'appelle les-poètes.fr. Ce livre est un livre épais, assez conséquent, qui ne vous coûtera d'ailleurs que 12 euros. Bravo, les éditions Rhubarbe. Bravo à Alain Kewes qui a publié ceci. Alors, en préambule, il y a trois citations, Margot.
Oui.
Hein? La première citation, elle est de Lucrèce, De rerum natura, de la nature des choses. Ça m'a rappelé mes mauvais souvenirs scolaires. Oui. Mais bon, Lucrèce a été un des premiers, effectivement, à se pencher sur cette généralité que l'on appelle la nature. Hein. Et cette citation est la suivante. Cette terreur et ces ténèbres de l'âme, il faut donc que les dissipent non les rayons du soleil ni les traits lumineux du jour, mais la vue de la nature et son explication. Voilà. Et son explication. Et puis, une citation d'Alexandre Vialatte dans les Chroniques de la montagne. La nature ne sera bientôt plus qu'une espèce de souvenir d'enfance pour l'homme assis sur une chaise de métal au milieu d'un cube de ciment. Voilà. Donc là, nous sommes dans la contemporanéité. Nous avons quitté l'Antiquité. Et puis, cette phrase merveilleuse de Francis Ponge dans Les Notes premières de l'homme, il faut remettre l'homme à sa place dans la nature, deux points. Elle est assez honorable. Voilà. Alors, Margot,
Oui.
peux-tu nous expliquer donc la genèse de ce livre?
Alors ce livre, nous avions envie avec Michel Aust, lors d'un échange, de faire quelque chose ensemble. Il a fallu évidemment trouver un thème et nous sommes tombés d'accord sur la nature. Bon, la nature à l'heure actuelle avec les problèmes de l'environnement sont quand même brûlants. Et chacun à sa façon. Bon, Michel Aust, très interpellé par l'écologie, bien sûr, l'environnement, moi de même, et aussi ayant un vécu par rapport à la nature, où j'ai quand même fait une initiation d'écriture à travers la nature. Donc voilà, nous sommes tombés d'accord, et le livre a commencé en toute liberté. C'est-à-dire, nous nous sommes entendus pour nous répondre l'un l'autre dans une sorte de conversation totalement libre, dans le respect l'un de l'autre et sans nous empêcher. Et voilà comment le livre s'est mis en route.
On peut lire la quatrième de couverture. Hein. Une femme, un homme s'écrivent et partagent leurs souvenirs, goûts et craintes au sujet de la nature. Celle qui disparaît sous les assauts du béton et du progrès autoproclamé. Très vite, on comprend qu'autre chose est en jeu. Ces deux-là se cherchent, se provoquent, piquent et s'esquivent, sous-entendent et digressent, tendant leur filet de paysages réels en représentation picturale ou évocation littéraire. Leur correspondance prend alors l'allure d'une danse de séduction ou d'un duel à fleurets mouchetés. C'est que la nature est vaste et réserve bien des surprises, de vipères en couleuvre et de manets à crannach d'anciens, sans oublier Gustave Courbet, quand bien même chacun sait qu'à la fin, c'est elle qui gagne, car c'est aussi cela, la nature des choses.
Oui, c'était un jeu entre nous. C'est la balle au rebond. C'est bon, c'est le ping-pong avec la raquette et on suit la balle et on la prend, on la rejette et voilà. Au fil de l'écriture, ben des choses imprévues vont arriver. L'autre va répondre d'une façon qui va surprendre et bon, c'est l'enchaînement, c'est fait aussi dans une forme de joie. Le sujet de l'environnement, bon, est grave, mais nous avons voulu récréer pour que les personnes soient joyeuses, que ce soit gai, que ce soit plein de fantaisie et d'entrain.
Voilà, je peux témoigner que c'est gai, plein de fantaisie et d'entrain. Hein. Ça, c'est sûr, parce que c'est un livre qui se lit aussi avec beaucoup de plaisir. Hein. On en reparlera, mais c'est un livre de plaisir essentiellement. Hein. Moi, je l'ai lu vraiment. Il y a à la fois le plaisir de l'écriture, en particulier la tienne, qui est un plaisir vraiment du charme de l'écriture, même de la langue, du langage, de ce que. On retrouve un peu ce. Il y a une citation de Francis Ponge là dans ce livre, mais on retrouve un peu de ça aussi, je trouve, dans ton écriture, dans la façon que tu as de fixer quelque chose, de fixer un élément. Tout ça est très, très jubilatoire. Et puis, il y a chez Michel Host un ton qui est toujours un ton, quand même un peu de l'ironie. Qui est souvent un ton où l'humour est toujours en filigrane malgré tout. Et j'avoue que les deux s'accordent très très bien. On voit ce dialogue dans des tons effectivement qui sont très différents et qui se répondent. Et tout ça est chargé, comme je le disais, vraiment d'un plaisir jubilatoire pour le lecteur. Alors, Margot,
Oui.
On va quand même rappeler qui tu es ainsi que Michel Host. Donc, Margot, tu as publié pas mal de livres de poésie. Tu peux nous indiquer, s'il te plaît, les titres de tes anciennes publications?
Oui, j'avais édité Les glaneuses à
Glaneuse,
l'arbre à parole
oui.
en 1993. C'est peut-être pas la peine de dire les années.
Bon, comme tu veux, comme tu veux. Si, ça fixe un peu
Terre
le
à
temps.
encre vive en
Oui.
1994,
Oui.
ensuite Hors du tout chez Raphaël de Surtis,
Oui.
1999, Les mains aux éditions Trame en 2010. Et puis j'ai édité des aphorismes aussi.
Oui, dont on a beaucoup parlé ici.
Oui, on en a parlé, oui. Filigrane chez Babel Éditeur en 1993. Et Quark aux éditions Clapas en 1997 avec une réédition en 2007. Bribes, toujours chez Babel Éditeur dans sa collection 4 en 2008. Et Poussière aux éditions Le Nœud des Miroirs en 2009. Et également des correspondances Aigrette, édité chez Babel Éditeur en 1999. Et Lettres à G aux éditions Noir et Blanc en 2003.
Voilà. Très bien. Donc, essentiellement de la poésie,
Oui.
hein, et bon, les aphorismes, on peut également, on le met bien sûr dans le versant poésie. On peut dire que tu étais infirmière de nuit pendant très très longtemps, hein. Voilà, ce qui te permettait peut-être d'écrire. Alors toi, tu faisais l'inverse de ce que faisait notre ami Vertet, qui était médecin. Qui lui travaillait le jour et écrivait la nuit. Toi, c'était
Oui,
peut-être l'inverse. Hein?
c'est ça. C'est vrai que là, j'ai travaillé la nuit pour écrire le jour.
Oui. Alors, si tu le veux bien, Margot, voilà
Oui.
comment nous allons procéder. D'abord, peut-être, je vais, si tu le permets, nous allons bien sûr continuer cet entretien, mais je voudrais lire une critique, une note de lecture de Jean-Paul Gavard-Perret, qui me
Oui.
semble être pertinente. Hein. Si tu veux bien, on va la lire,
Oui,
cette note de
d'accord.
lecture. Hein.
Je t'écoute.
Alors, ce livre, donc, L'arbre et le béton, de la nature des choses et des choses de la nature, ce dialogue, ce livre est un dialogue, entre parenthèses presque, intime, entre une femme et un homme, qui s'écrivent afin de partager souvenirs, angoisses. Le tout avec finesse, sensibilité et surtout intelligence. Le livre devient une réflexion à bâton rompu sur le sentiment de la nature en ce début de millénaire au moment où celle-ci se réduit, en particulier dans le territoire européen si étroit. Les deux amis, au sens que Montaigne l'entendait, n'en restent pas au raisonnement d'usage. Le jeu, sans devenir dangereux, prend la forme d'une badinerie où les deux auteurs se provoquent jusqu'à peut-être se griser. Toujours est-il que l'entretien, lourd ou léger, de sous-entendu, se poursuit en méandre. Le paysage se double d'autres visions picturales et littéraires. Dans ce jeu et à chaque page, des surprises éclatent, de Vipère en couleuvre et de Manet à Granach l'Ancien, sans oublier Gustave Courbet. Finalement, le verdict semble donner la femme victorieuse. Mais là n'est pas l'essentiel. Les deux protagonistes effacent les ombres de l'âme en dépit des cubes de ciment où elles se lovent plus ou moins forcément. Le sentiment de la nature reste celui des deux auteurs. Ils éprouvent en ce qu'ils s'écrivent. Ils s'écrivent pour la voir à la rencontre d'une nécessité vitale. Ils proposent des figures de sable ou de roc. Entre force, gravité, ironie, dérision des causeurs, libère l'esprit de tout ce qui l'encombre et met de la lumière sur le royaume de nos ombres. Preuve que la littérature reste l'avant-scène où parfois, à mesure que les lieux se délabrent, tout peut encore arriver. Qu'importe si l'hiver est rude et l'été caniculaire. L'erreur du renonculacé est sans doute annoncée puis retardée. Mais chaque rosier, il y a son fumier, chaque être son pâle, son palier, son espalier. Voilà, Jean-Paul Gavard-Perret, je tenais à lire cette rédige, je trouvais vraiment excellente.
Un très beau texte.
Très beau texte, oui. Alors Margot, si tu veux bien, donc on va donner quand même à entendre le ton de ce livre tout de suite.
Oui.
Et voilà ce que je te propose, si tu le veux bien.
Oui.
Donc, tu lirais ta partie et moi, je pourrais lire la partie de Michel Host. Voilà.
C'est une bonne idée. Tu veux que je lise la partie entière ou juste
alors tu, à toi,
quelques
tu,
textes
voilà, par exemple, si tu
je lis un texte et tu en liens.
Voilà, et je prendrai celui qui suit, hein, chaque fois.
D'accord, très voilà, bien.
Voilà.
Bon, je vais...
Donc, tu me rappelles simplement le numéro de ou le numéro de la page, justement.
Oui.
Voilà. Hein?
Alors, je vais commencer par le texte numéro 1 qui s'appelle Le Labour.
D'accord.
Et c'est page 11. Le Labour. Une nature presque autobiographique fait partie de son corps. Parfois, elle lui semble avoir été inscrite dans sa chair, surtout en hiver. Les labours s'ouvrent, feuilles préparées d'un cahier d'écriture, sillons appuyés de la largeur des griffes d'un outil, couches brunes, les unes noirâtres, fraîchement retournées, empiètent sur des auréoles sépia plus sèches. Surface répandue à la craie blanche, souche en rang au fond d'une pièce découpée au ras d'un bosquet, sol gras où revenir briser les mottes, marge d'herbe le long des haies, bordure boueuse autour d'une mare, quadrillage de la herse aux lignes prêtes à se remplir. La terre attend dans sa matière d'être griffée. Elle parle aux promeneurs insolites, familiers de la jachère où les mots, livrés à eux-mêmes, attendent le laboureur qui les rendra en les travaillant à leur matrice.
Le voyageur anglais. Puis-je approcher Dame Nature par le bief, par le déversoir adjacent du poème, par le sentiment qu'elle éveille en moi? Il ne lui est pas favorable, ce sentiment. Je suis partie involontaire de ce que, à défaut d'imagination, la philosophie appelle la nature en général. Segment du monde physique, donc. Je suis soumis à toutes ces lois, de la fatigue au sommeil, de la faim, de la soif et autres sang, etc., que l'on voudra. Qui plus est, lorsque j'étais enfant, nous allions ramasser de blancs et tendres champignons des prés. C'était au point du jour, j'avais les pieds trempés de rosée, Eh bien non, eh bien oui. Je la détestais, l'herbe qui me jouait ce sale tour du plaisir, des plaisirs. Puis-je affirmer par conséquent que j'ai plaisir à la nature, à me trouver chez elle? Pas vraiment. Mais parfois, oui. Lorsque les conditions sont confortables, à la manière des voyageurs anglais des siècles passés. La terre, j'aime son odeur, ni mâle ni femelle, mais puissante, singulière, surtout dans le vin. J'ai horreur qu'on la maltraite. Labour des produits tranquillisants de l'agriculteur accablé par des dettes et pourchassé par les banques. J'ai seulement commencé à comprendre la terre grâce à l'amour des animaux. De ma chair, celle du chien encore regrettée de mon enfance, c'était la même chair, la continuité, l'alliance du vivant et du vivant, du périssable et du périssable. Je ne parle pas de l'ensorcellement des alouettes. La jachère, oui, c'est le mieux. Et les bosquets, les taillis. Surtout s'ils sont peuplés de lièvres et de lapins, je tiens à dire que je ne possède pas de fusil. Michel Ost. Voilà.
On
Donc,
retrouve l'humour.
voilà, on retrouve l'humour de Michel Ost. Alors, rappelons qu'il est agrégé d'espagnol, qui est un professeur heureux, il dit, dans une autre vie. C'est un poète, un nouvelliste, un romancier et traducteur, donc, puisque. Il a traduit ici, nous en avons parlé, le romancero gitano de Lorca. Alors, il dit même qu'il a eu une enfance difficile, voire complexe, mais il n'en a fait ni tout un plat littéraire, ni n'a encore assassiné personne. Alors, il dit qu'il aime les dabs, la vitesse, le rugby, les araignées, les chats, et qu'il a fondé l'ordre du mistigri. Voilà. Donc, je vous invite à voir les ouvrages de Michel Ost. Alors là, il parle aussi des animaux. Ça m'a beaucoup touché ce qu'il dit sur les animaux, sur la nature et les animaux, en disant que peut-être qu'il aime aussi la nature, par il est arrivé à. J'ai seulement commencé à comprendre la terre grâce à l'amour des animaux. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et j'étais en train justement de lire Herberto Helder, qui est un des grands poètes. Vivant encore, puisqu'il a plus de 80 ans, portugais, un des plus grands, c'est vraiment la continuité de Pessoa, hein, Herberto Helder. Alors, il dit, dans un texte qui est d'ailleurs un des textes de jeunesse, il dit: On ne peut humilier ni détruire les animaux. À défaut de ressources morales, il y a chez eux une sorte de dignité, une intégrité fondée sur le monde naturel. Voilà. Donc je me dis qu'on était en plein dans le sujet là. Hein. Donc l'intégrité des animaux est fondée sur le monde naturel, c'est-à-dire la nature.
Oui, mais tu me donnes envie parce que j'ai écrit un texte sur l'abattoir. Il n'est pas dans l'ordre que je prévoyais, mais
Oui.
je vais chercher la page.
À l'autre.
90. Voilà.
Voilà, 90, c'est ça.
L'abattoir. Parfois, d'une bétaillère était descendue de force des vaches que des hommes tiraient par une longe à l'année. Au bord de la route, sur un vélo rouge, lui tient le guidon. Elle, sur la barre transversale, est assise. Par moments, des stalles cintrées montent un meuglement. Arrêté au milieu du porche, il regarde. Personne ne fait plus crisser le gravier de la cour. En face, Une ouverture donne sur un couloir sombre, le couloir de l'abattoir. Ils sont deux ou trois hommes dans l'accadrement, à hisser par une patte à l'aide d'une grosse corde et d'une poulie, un bœuf bientôt pendu, les naseaux en bas. Maggie s'avance, pose le baquet sur le seuil en se méfiant d'un coup de corne. À distance, ils restent tous les deux soudés à la bicyclette. Les hommes en blouse et bras de chemise sont de dos. La bête se découpe dans le chambranle. Maggie s'affaire sur le trottoir qui longe la façade. Soudain, du sang gicle à flot du cou de l'animal, beuglant, qui se vide dans le baquet avec des secousses transmises à la corde qui tressaute. Sur le vélo, il reste là, immobile, et la victime aussi, bientôt, ne remue plus. Au retour, Maggie, pas loin de son seau, nettoie au bas les brosses par terre. Un homme asperge à grand dos devant les bâtiments. Une autre fois, sous le grillage de l'abattoir, des morceaux de mou rosâtre se déversent dans le ruisseau. Cet été-là, en vacances, un Parisien scandalisé photographie en couleur des viscères sanguinolents qui surnagent, parle de les montrer à un journal. Oh le cœur, c'était avant les années 60.
Un texte dur. Un texte dur, hein? Mais d'une grande précision aussi. Il y a une grande maîtrise de l'écriture dans ce texte. Alors, on fait bien de dire que c'était avant les années 60, puisque ce que tu décris est aujourd'hui impossible, puisque, en théorie, puisqu'on ne peut abattre d'animal avant de l'avoir estourbi complètement. Au moyen d'un fusil à air comprimé qui détruit le bulbe rachidien, de manière à ce que l'animal est déjà mort au moment où on le saigne. Voilà.
Je t'indique la page si tu veux.
Oui. Non, je vais lire ce qui suit. Hein.
D'accord.
À la fin, c'est elle qui gagne. D'où vient cette faiblesse de tenir aux chats au point de les aimer? Par hasard, n'aimeriez-vous pas les chiens, les perroquets, les kangourous? Ce que j'aimerais, c'est être en état de plaisanter avec vous. L'idée d'un kangourou dans le salon, dans mon atelier d'écriture privée, voilà mes neurones en surchauffe, prêts à toutes les gambas des fantaisies. Lâchez-les, vos neurones. Pourquoi les tenez-vous en laisse? Que se passe-t-il de si terrible? Cette question. De vous qui m'avez décrit l'égorgement du bœuf, la fascination, qui veut dire l'épouvante, et ce photographe qui photographie et parle de montrer, est-ce qu'on montre l'immontrable? Eh bien quoi? Vous ne me dites rien de plus. Nous avions 4 chats et 3 sont morts. Il n'en reste qu'un. Le chat blanc est sourd, venu de Nijni Novgorod. Pour être exact, les 3 disparus étaient des chattes. Artemis, Nejma, Tanit. Les chattes sont mortes. Prétendez-vous les en empêcher? Non, certainement pas, mais je ne m'y attendais pas et le voulais moins encore. Croyez-vous avoir jamais eu le pouvoir de contraindre la nature à ne pas être ce qu'elle est, celui de la soumettre à vos désirs? Non, bien sûr. Alors, quoi d'autre? Je ne sais pas. Je ne sais plus rien. N'est-il pas étrange que ces trois chattes se soient éteintes dans une identique période de leur existence, dans leur 13e et leur 14e année? De trois maladies que je crois proches. Cancer du sang, cancer du foie, leucémie aiguë. Trois formes de cancer, il me semble, comme si le mal était dû à des causes très circonstancielles liées à la nourriture semi-industrielle que nous leur donnons, à l'air saturé d'impuretés qu'elles ont respiré, à la vie étroite et si peu naturelle que les hommes leur font mener. Je me sens et me crois coupable de leur disparition. Et toutes les trois sur la table d'examen de la vétérinaire. Seule la mort d'Artémis fut terrible. L'aiguille dans le cœur, oh l'aiguille. Cet homme, car c'était un homme, un intérimaire, n'aimait pas les chats. Celle de Nejma, horrible. Mais un dixième de seconde seulement. Pour Tanit, un glissement lent dans le néant. Daniel prétend qu'elle avait tout compris, qu'elle savait, par instinct et intelligence, des choses et de nous deux et de son propre état. De plus, nous ne soupçonnions pas la gravité de sa maladie et nous ne l'avions apportée que pour un simple diagnostic. Tout cela est si étrange, absurde et tellement douloureux. Je comprends. Aucune parole ne réconforte ni ne console. Il vous reste le chat de neige, dit Jock, si j'ai bon souvenir. C'est un fait. Sans vouloir faire le malin, je m'attends à la même chose. Au pire, par conséquent, ce sera l'affaire de quelques années. J'en sais le nombre. Après lui, plus de chats. Vous ne pouvez rien prédire. J'ai les cendres des deux chattes dans leurs urnes. Elles seront mises en terre près de la boîte où j'avais couché Artémis dans ce jardin de Bourgogne qu'elles aimaient tant. Mon cœur se serre. Elles étaient des petites personnes, de légères âmes errantes, aimantes. Laissez. Pas de ce pathétisme des mots qui ne change pas les choses. Vous avez raison. À la fin, c'est toujours elle qui gagne. Oui, elle aura aussi le kangourou et nous avec. Voilà. Donc, un texte qui est très émouvant,
oui.
Qui est tellement réel. Hein, on voit tellement, il y a une trivialité dans ce récit, trivialité tragique, mais une trivialité que connaissent beaucoup de gens. Et en même temps, effectivement, c'est la nature qui reprend toujours ses droits qui gagne. Et ce qui arrive au chat arrive à tout le monde et même à nous. Voilà. Donc on voit les tons. Je trouve d'ailleurs ces deux récits se répondent très bien. Hein. Là, le toit avec cette épouvante de l'abattoir, mais qui était, bon, moi j'habitais dans ces années-là, dans les années 60. Je me souviens que Mazdazi, le petit village où j'habitais, il y avait un abattoir.
Oui.
Effectivement, c'est comme ça quand tu es le bétail.
Oui, c'est du vécu, hein. C'est des scènes auxquelles on assistait.
Voilà. Et la porte était ouverte, hein. C'était devant la rivière qui passe, puisque les déchets étaient évacués par la rivière. Et les portes étaient ouvertes et donc et les villageois pouvaient regarder ce qui se passait. Donc j'ai eu ces visions, comme toi, qui m'ont épouvanté.
On reste étonné d'avoir pu regarder.
Oui. Mais bon, il faut dire que là, quand même, le législateur a fait des progrès, puisque maintenant, les bêtes ne peuvent être saignées qu'après avoir été médicalement tuées. Voilà. Alors après, il y a cette réflexion aussi de Michel Ost sur le fait que les animaux, qui sont nos animaux domestiques, sont de plus en plus éloignés de la nature et peut-être finissent par prendre la maladie des hommes. Hein. Moi, j'ai eu une chatte qui est morte à 27 ans. Maintenant, je crois que ce serait tout à fait exceptionnel, bien que elles aient tous les progrès de la science, mais ça veut dire que on vit dans un environnement qui est un environnement peut-être aussi malsain. Pour ne rien te cacher, j'ai le chat de ma fille aînée qui a un cancer du cerveau. Bon, il vit le mieux possible, hein, mais pourquoi a-t-il cette maladie qui est une maladie quand même des hommes modernes? Alors, est-ce que c'est les ondes? Est-ce que c'est effectivement l'environnement? Est-ce que la réflexion de Michel Ost, moi, m'interpelle, parce que je crois qu'il y a du vrai dans ce qu'il dit.
Je pense qu'elle est juste.
Oui.
Je pense qu'elle est juste et l'homme est empoisonné par les alimentations industrielles.
Oui.
C'est maintenant vérifié. Et c'est pour ça qu'ils font un appel en force à la nourriture bio. Ils recommandent le bio parce que finalement, on s'aperçoit qu'on est. C'est terrible de penser que dans notre nourriture, il y a du poison,
Du
quoi.
poison, oui. Mais
Ça
bon,
donne bien à réfléchir et ça va dans le sens de ce que dit Michel Ost.
oui. Mais des gens comme nous, par exemple, qui avons vécu, c'est trop tard, quand même, non? Tu penses?
Je ne pense pas, hein.
Avec
Je
tous les
pense que.
pesticides, tout ce qu'on a pu ingurgiter pendant toute notre vie, nous, oh là là,
Oui.
hein?
Y compris la DDT.
Oui, la DDT. Oui, la
J'ai des
DDT, oui.
souvenirs d'avoir été
Oui.
saupoudrée
Ah oui, et oui, mais voilà, oui.
avec la
Là,
bombe, tu sais.
oui, tout à fait. Oui. Oui.
Bon, mais je sais pas, mais peut-être on était plus solide, mais regarde toutes les maladies qui environnent, le nombre de gens qui sont obèses.
Oui,
Ils
oui.
sont pas morts, bien sûr,
Oui,
mais
oui.
ils sont largement atteints par l'environnement. C'est dramatique de les voir, hein. Ces personnes si jeunes qui sont presque impotentes.
Et l'obésité s'est inversée. Avant, l'obésité était un peu réservée aux gens qui avaient les moyens de manger, c'est-à-dire aux gens riches. Alors que maintenant, c'est l'inverse. L'obésité touche les classes les plus modestes et les gens riches ont les moyens de manger et d'être minces.
Oui,
Parce qu'ils ont des aliments pour cela.
c'est les deux vitesses, hein. C'est malheureux, mais c'est pour l'alimentation, c'est les deux vitesses aussi.
Oui.
Ça donne à réfléchir. Mais bon, ce serait un autre débat.
Oui. Alors Michel Ost, il dit aussi que bon, la nature reprend ses droits, décidément, pardon, reprend ses droits toujours. C'est toujours elle qui a le dernier mot. Mais ça veut dire aussi qu'elle se renouvelle. Les choses se renouvellent, certes. Les choses disparaissent, mais d'autres naissent. Hein. Et là, toujours pour revenir à Herberto Helder, il disait, la Terre enfante inexorablement dans n'importe quel endroit tout au long du temps. bonne définition aussi de la nature, cet enfantement.
Bien sûr.
Ouais.
Et la
Mais,
nature se renouvelle, et puis
oui.
la nature, il suffit de corriger le tir que nous avons pris et elle reprendra, elle sera à nouveau saine.
Oui.
C'est-à-dire, elle nous donnera à nouveau des produits sains, à homme sain, nature saine. Ça tombe, c'est du bon sens.
Oui, mais est-ce qu'elle pourrait, est-ce que tu penses que on est en danger qu'elle pourrait arrêter d'enfanter la nature?
Arrêter d'enfanter.
Oui, c'est-à-dire, bon, les choses, s'il y avait les cataclysmes, pourraient faire en sorte que les choses ne se renouvellent pas. Ou... C'est arrivé quand même quand on regarde l'histoire de notre planète. On a eu des cycles, les dinosaures ont disparu. Est-ce que nous, on ne pourrait pas subir le sort des dinosaures?
Ben, c'est ce que certains disent. Certains disent que la nature n'a pas besoin de nous, hein.
Oui, voilà. C'est ce que oui. C'est exactement ça que je voulais entendre. Moi, c'est tragique, ça.
C'est
Oui.
tragique,
Oui.
mais bon, on l'aura un peu cherché, hein.
Oui. Oui.
Et bon, maintenant, les cris d'alerte sont lancés et il faut espérer que le mouvement va se poursuivre. L'agriculture bio, est en pleine expansion. Il y a tous les jours des fermes bio qui se créent là actuellement. Et en parlant, on s'aperçoit que les gens dans tous les milieux font des sacrifices pour manger bio, hein.
Et
Bon.
il y a des progrès aussi sur l'eau, par exemple l'utilisation de l'eau, l'utilisation de comment avoir les récoltes qui sont le plus économes d'eau, etc. C'est quand même en train de se mettre en place, ça. Hein?
Oui.
Oui.
C'est plein d'espoir, en fait. Ces drames dans lesquels nous baignons font qu'il y a un sursaut et un sursaut de vie qui engendre l'espoir que les choses changent. Par la force des choses, avec le bouleversement climatique, les choses vont bouger, hein. Ça va
Espérons.
être une question de survie, là.
Oui. En particulier le problème de l'eau. Il y a par exemple en Californie des fermiers, puisque la législation sur l'eau date du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, ça n'a pas été changé. Donc ils ont des droits sur les sources, hein, enfin, et même sur les cours d'eau qui passent chez eux. Et certains. Gagne de véritables fortunes en cédant ses droits aux villes et donc en abandonnant l'agriculture.
Ah oui.
Ce qui est quand même. Alors que les autres agriculteurs vont avoir beaucoup de mal, mais ils pourraient très facilement, puisque les villes, les grosses villes qui sont à côté, dans cette Californie dévorante, sont à l'affût, bien sûr, d'eau qui manque de plus en plus. Et donc achèterait aux agriculteurs leur droit d'eau et faisant ainsi disparaître des pans entiers de nature, puisque après c'est surtout avec ça devient un véritable désert.
Oh là là, oui, ça c'est une vision terrifiante
Oui,
que tu mets là, hein, devant les yeux.
mais c'est ce qui se passe actuellement, c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein.
Oui, ça rejoint la citation que
Oui.
tu disais au départ, là,
Oui,
l'homme assis sur une chaise de métal au milieu d'un cube de ciment. Et c'est vrai que il y a un mouvement à l'heure actuelle, un mouvement dans les technologies qui voudrait que l'homme ben, se passe de la nature, hein, et même de son corps. Alors,
tout à fait, oui. Alors là c'est encore. Oui. Les deux, pour moi, étant totalement confondus. Hein.
oui.
La nature et le corps, pour moi, c'est la même
Oui.
chose. Hein. Hein. Ouais.
C'est l'homme synthèse, quoi.
Oui.
Et bon, on est confronté à ce problème-là maintenant.
Oui.
Et c'est vrai que les oreilles doivent être grandes ouvertes parce qu'il y a des gens qui parlent et qui l'annoncent et qui mettent en garde. C'est bon, maintenant, il faut ouvrir les oreilles du bon côté.
Et c'est bien d'avoir écrit ce livre, surtout parce qu'avec vos sensibilités différentes, hein,
Oui.
puisque bon, toi, on sent qu'effectivement, il y a cette angoisse de la nature, il y a d'abord cet enchantement, hein, de la nature. Bon, tu vis près de la nature, tu vois. La nature a toujours été très importante quand même chez toi, hein.
Oui, c'est.
Même quand tu allais travailler, tu regardais dans les chemins, etc., hein.
Oui.
La nature a toujours été prédominante quand même dans ta sensibilité. Et tu l'as bien traduit dans l'écriture. Alors que Michel Aust, en définitive, il aime la nature, mais dans le confort, quoi. Hein? Oui. Mais je crois que tu l'as quand même gagné complètement à ta cause. Quand on lit ce livre, on voit vraiment, oui, la nature, mais bon, moi j'aime bien, mais bon, il faut que je sois quand même confortablement installé. Et puis on sent quand même au fur et à mesure, et en particulier sur les derniers textes, là, où il y a une dimension métaphysique là aussi. Il se dit, oui, la nature, oui, mais quelle puissance, quelle puissance. Est-ce que ce n'est pas une hymne à la nature aussi, à cette puissance de la nature, ce que vous avez écrit là conjointement, hein, vous deux?
Ben, je pense que quelque part on s'est rencontrés sur ce thème de la nature et qu'on a peut-être senti tous les deux qu'il y avait une urgence à écrire quelque chose là-dessus, quelle que soit la forme que cela prendrait. C'était quand même marqué d'une croix ce moment crucial qui concerne l'environnement et que peut-être c'était une façon de mettre une empreinte, quoi, de lancer aussi un appel, même si c'est un appel qui reste fantaisiste, par volonté,
Oui.
mais ça reste quand même des petits cris face à ce qui se passe, quoi, entre les divers textes qui ont été écrits, à chaque fois il y a un petit rappel comme ça, on le voit à travers les chats, et à un autre moment, par rapport à un produit pour tuer les insectes.
Oui.
Tout ça, ce sont des clins d'œil qui sont jetés et qui sont lancés aussi pour éveiller aussi. Chacun de nous, nous avons éprouvé cela profondément. Cette interpellation, beaucoup disent maintenant que des oasis vont se créer, les gens vont face à l'avenir, il y aura des oasis où les gens pourront se ressourcer. On en est là. Et face à la précipitation des dégradations de l'environnement, eh bien, il fait bon avoir un endroit, une résidence secondaire dans un coin de campagne, quoi. Parce que ça va devenir vital. Les gens qui se penchent, les experts, le disent.
Alors, ce qu'il y a de très bien quand même dans ce livre, c'est que il y a ce côté, d'abord il y a un côté magnifique littéraire, hein, avant tout. Avant tout. Certes, il y a toutes ces idées, mais c'est avant tout de très beaux textes et une maîtrise du langage là, dans deux styles différents, mais qui se complètent bien, qui se répondent bien. Donc c'est quand même, sur le plan littéraire, un très grand plaisir littéraire, ce livre. Et en même temps, effectivement, comme tu dis, c'est un livre militant. Militant, mais pas au sens embêtant du terme. Hein? Voilà,
Voilà.
voilà. Et ça, c'était pas facile à faire. Franchement, c'était pas facile. Et je ne sais pas s'il y a eu d'autres expériences comme ça aussi bien réussies. À la fois, arriver à donner quelque chose qui est sur le plan littéraire, qui est vraiment bien la route, qui est divertissant et qui en même temps est quand même quelque chose d'interpellant. Voilà. Si tu le fais bien, Margot, on va t'écouter. Qu'est-ce que tu vas nous lire?
Alors tiens, je vais lire un texte qui est. Je voulais lire la source, mais
Oui.
Je vais plutôt lire le Guy facétieux.
D'accord. C'est quelle page?
C'est page 74.
D'accord. On t'écoute.
Le Guy facétieux. À partir d'ici, l'ombre s'abat. Des troncs s'obscurcissent. Que domine un monastère de vieux peupliers noirs. Implantés sur ses branches, se répartissent des minuscules rotondes conventuelles de gui aux rameaux d'un vert sombre, où résident des moines arborant un pectoral enrichi de boules perlées, emblème de l'ordre du Guilan Neuf, qui règne sur ce lieu devenu, par sa présence tutélaire, au sommet de ces grands arbres en bordure d'un ruisseau, une aire empreinte de sacré. De régions invisibles à mugissement, ces ondes confondues se propagent, ce souffle gagne une à une les feuilles brillantes qui tremblent. Alors, tout bruit alentour des moines hiérarchiques le long des promenoirs supérieurs. À force d'exercice spirituel, de mortification, de contrainte, ils ont obtenu du ciel que les racines du gui s'affranchissent de la terre-mère couverte en remerciement au pied de ce cloître d'ex voto humide et moussu. Plus bas, une voix soyeuse interdite au passage que tapissent de longues herbes flottantes enjambe le cours d'eau, atteint un vaste champ qu'elle raccorde à ce bord-ci. Des versants de gerbes d'or le clôturent. À l'intérieur, des brebis pacifiées sont étendues. Respectant l'horaire de méditation de l'ordre du gui, elles ont débuté les heures austères de la rumination. Là-haut, de leur oratoire, les moines contemplent ce canevas émeraude, ces motifs à tête de laine blanche brodée au point de croix. Devant cette immobilité séculaire, ils réfléchissent pour savoir lequel, du troupeau ou du paysage, serait le moins immuable. D'une égale façon, ni le soleil, l'orage ou la neige ne les ébranle. L'un sur l'autre, ils semblent la face et le revers d'une même création arrêtée dans le temps. Maintenant, selon la règle, la communauté ovine rend à l'ordre du Guilan Neuf un culte d'appartenance, où les moutons bêlants marmottent avec ferveur des patenôtres à l'intention de ses pères. Et des cimes, les moines en habits de perles marmonnent en chœur « Nature, nature, rien de nouveau sous tes cieux. »
Je ne vais pas lire le texte qui suit parce qu'il est tout simplement trop long.
Oui.
Mais si tu veux bien, tu parles là des pères. Et on va reprendre, on va finir sur le petit père, page 96.
Page 96. Père. Devant l'âtre, en rallumant sa cigarette de tabac gris roulé, Le petit père fait griller ses moustaches avec un briquet à essence qu'il place au creux d'une main recroquevillée. De l'autre, il appuie sur la molette. Souvent, la flamme est trop grande, peut-être parce qu'il a du mal à la régler. Ou alors, la pince à feu entre ses genoux, il tire à lui un tison, et le bec brun du papier éteint flambe. En 1914, il avait 20 ans. Un obus lui vaut d'être rapatrié des tranchées avec sa main estropiée et une pension de guerre. Ainsi rejoint-il la longue liste des poilus aux gueules cassées. Debout sous les poutres, en sabots, sa ceinture de flanelle grise autour des reins, ses yeux bleus pétillants de malice, il raconte ses exploits de chasse, épaule avec un fusil imaginaire, dont sa main rétractée devient la crosse sculptée, le lapin de garenne abattu d'un pampan que les gendarmes viennent partager en pâté le dimanche à la table du braconnier devant une bouteille de vin rouge. Au-dessus de la cheminée, une pendule de marbre anthracite marche à l'heure du soleil. Elle trône entre deux douilles d'obus rutilantes en cuivre sculpté. Dans l'une, un bouquet de monnaie du pape argenté. Dans l'autre, accroché par la queue, un fruit dodu d'herbe à la ouate qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une perruche verte. Le petit père traite d'une main sa vache paquette qui broute dans un enclos attenant à un carré de pommes de terre qu'il arpente avec sa boîte à doryphore. À ses basques, un mioche s'amuse à mettre des larves dans une boîte en métal de pastilles à sucer. Pour se rendre au marché, il attelle son cheval à un tombereau qu'il conduit d'un bras debout sous sa casquette neuve. Il la soulève pour dire bonjour en lissant les plis de son crâne blanc, chauve en dessus, avec le pouce et l'index de son moignon en forme de pince que la terre des dères lui a laissé.
Voilà. On va finir sur ce texte assez émouvant, la terre des dères qui ne sera pas, évidemment. La Der Deder, Margot Hayon, Michel Host, L'arbre et le béton, de la nature des choses, des choses de la nature, dialogue aux éditions Rhubarbe. Un très beau livre, 12 euros, à lire absolument. Margot, merci beaucoup d'être venue nous présenter ce livre ce soir pour Radio Occitanie. Et j'espère à bientôt. J'espère oui. Que tu as une publication que nous aurons plaisir à partager prochainement.
Oui.
Bon, ça me fait plaisir. Et merci beaucoup, Margot.
Oui, merci beaucoup à toi et à Claude Bretin.
Oui, il te salue, nous t'embrassons.
Merci.
Margot. À très bientôt.
À très bientôt.
Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine. Adiciast.
Ce sont de drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur souffle dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus, leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés. Quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes.